Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je voudrais que nous rappelions quelques principes que nous avons dans la parole de Dieu qui va nous servir finalement de base. De fondement, on peut dire ça comme ça, si vous voulez. Et nous allons donc rappeler quelques faits historiques, je ne vais pas les commenter, mais on passera à autre chose, quelques faits historiques illustres, surnaturels, qui nous sont consignés dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Après, on verra le Nouveau Testament. Vous vous souvenez du déluge ? Oui. Je commence par là aujourd'hui. Alors, je parlerai du déluge. Je vous cite tout simplement pour mémoire la confusion de Babel. Vous vous rendez compte ? Un peuple qui est confondu. Où là, il va y avoir finalement la grande direction pour le monde jusqu'à maintenant. La confusion, les langues et tout ce que nous rappelle cet orgueil hors mesure de tous ces peuples qui veulent défier Dieu. Et puis, il y a la traversée, encore une fois, de la mer Rouge. Il y avait de l'eau aussi. Et puis, on se souvient du Jourdain aussi. Ça, c'était quelque chose également. Alors, on passe de l'eau au feu. Vous vous souvenez de Élie au Mont Carmel. Et c'est encore avec de l'eau que les choses vont se faire. Mais le feu aussi. L'eau et le feu. Et puis, je terminerai simplement ce petit rappel pour nous dire simplement, y a-t-il quelque chose d'étonnant ? Y a-t-il quelque chose d'impossible à notre Dieu ? Rien n'est impossible. Et nous allons voir, finalement, par le détail, dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, les prodiges, les miracles, l'extraordinaire, le surnaturel de notre Dieu, entre les mains de Jésus. Ce n'est plus Dieu créateur, ce n'est pas seulement Dieu créateur, mais c'est celui que Dieu a appelé pour faire la démonstration dans l'ordinaire de la vie des gens, l'extraordinaire de Dieu. Alors ça peut fortifier notre foi, c'est un message d'encouragement pour notre foi. Ouais. Sur terre, peut-être plus de possibilités, mais dans le ciel, tout est possible à celui qui y règne. Et c'est particulièrement à destination des enfants de Dieu qui croyons en Jésus, qui avons la foi en Jésus. Le premier texte que j'aimerais évoquer devant vous, on va le lire ensemble, c'est dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Alors, ne soyez pas surpris parce qu'il y aura des surprises. Et on va faire le détail, comment devons-nous interpréter les choses ? Oui, c'est vrai que tout cela, c'est écrit dans notre Bible. Quelquefois, ça nous laisse dans l'étonnement, dans l'incompréhension. Mais nous allons voir que Dieu vient à notre secours. Alors, Matthieu chapitre 17 et verset 20. Alors, je reprends un petit peu le fil du contexte. Alors les disciples se sont approchés de Jésus et lui dirent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité. Et c'est là ce qui est important. Si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, car rien ne vous serait impossible. Alors il y a naturellement matière à réflexion dans toute cette petite phrase. Je reprends la pensée de Jésus, quand il dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne, je ne sais pas si vous avez essayé, non, essayez. Je ne vous garantis pas, finalement, à quel moment ça va venir, Alors, si vous dites à cette montagne « transporte-toi d'ici », elle se transporterait. Ça, c'est quand même étonnant. Beaucoup de gens font l'achoppement, beaucoup de gens qui lisent la Bible font l'achoppement sur cette interrogation, sur ce mandat, en quelque sorte, hein, de dire à une montagne, de parler à une montagne et de lui dire « eh bien, va d'ici à là ». Ouais. Ils disent « non, pas possible ». C'est comme les textes que nous avons cités tout à l'heure. Une mer qui s'ouvre, la mer Rouge, vous vous souvenez, le déluge, toutes ces choses, le mont Carmel, où là, eh bien, le feu et l'eau se mélangent, et quelque part, eh bien, ça n'empêche pas le feu de jaillir. Alors, ce sont des choses qui, véritablement, dépassent l'entendement, l'intelligence humaine. Si vous dites à cette montagne, transportera d'ici, et elle se transporterait. Alors, soit Jésus nous raconte des falaises, des histoires, où il nous rencontre un mensonge pour nous faire, je ne sais pas, gamberger ou d'une manière ou d'une autre. Vous avez également un autre texte dans Luc, chapitre 17. Je suis en train de nourrir la pensée en ce moment. Et Luc, chapitre 17, verset 6, il est dit cette parole. C'est une question qui est posée par les apôtres à Jésus. Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi !» Bon. C'est déjà dans la bonne prise, hein, on peut dire, c'est la bonne direction. Parce que sans la foi, rien n'est impossible, ça c'est sûr. Hein. Augmente-nous la foi, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, on en parlera, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qu'est-ce que nous trouvons dans cette situation? D'abord la foi. C'est tout à fait nécessaire. Cette foi, de quelle nature et de quelle puissance est-elle? Eh bien, comme la plus petite de toutes les graines qui existent, c'est-à-dire le grain de moutarde. Voilà. C'est rien du tout. C'est quelque chose d'infime. Vous l'avez dans le creux de la main, vous le voyez à peine, c'est rouge. Une petite graine rouge, tout simplement. Alors, si vous aviez vraiment cette chose insignifiante dans la main, vous avez du mal à vous imaginer tout simplement la grandeur d'une montagne ou la grandeur d'un sycomore. Ouais, c'est un arbre majestueux, le sycomore, hein, comme bien d'autres choses. Hein. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, alors à ce moment-là, on transfère, vous diriez à cet arbre, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous assoit. Hein. Heureusement que vous êtes assis pour écouter le message de ce matin. Hein. Parce que de dire, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. La réponse de Jésus est inappropriée. Elle est complètement hors compréhension. Ça, c'est pas possible que l'on puisse croire une chose pareille. Une montagne et un sycomore qui va se déraciner lui-même en tirant sur les branches. Enfin, je ne sais pas comment il peut faire. Ou alors, il faut un grand vent. Hein. Oui. Comme ça arrive hein, quelquefois pour les... Alors, plante-toi dans la mer et vous verriez que ce sycomore prend ses jambes à son cou et il se précipite vers la mer, il vous obéit à votre parole. Parce que cette parole qui est la vôtre, vous l'avez entendue, vous avez entendu le commandement et l'ordre et vous comptez beaucoup plus sur la vérité que Jésus vous a donnée que sur vous-même là, à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Il vous obéirait. Alors ça, tout ça, c'est véritablement quelque chose eh bien, qui nous semble incompréhensible. Alors pourquoi Dieu a-t-il fait les choses dans l'Ancien Testament? Pourquoi Jésus reprend-il eh bien, ce processus et le dire à ses disciples? Oui, parce qu'il y a quelque chose à travailler là. C'est notre confiance en Dieu. C'est notre situation d'espérance, de confiance tellement grande que quelles que soient nos montagnes, et quels que soient nos sycomores, eh bien, Dieu est capable d'intervenir pour nous montrer qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain, et que c'est lui qui est finalement eh bien, le centre de tout sur la terre. Alors, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Peut-on dire et ajouter que nous sommes confrontés à deux hyperboles? Oui, type d'hyperbole. Témoignant de l'extravagance, retenez bien ce mot, de l'extravagance de la puissance de Dieu en action. L'extravagance de Dieu. J'ai donné un titre à notre message, c'est le pouvoir surnaturel divin. Parce que Dieu ne serait pas Dieu. Et ça, c'est sûr. Et il est Dieu parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est souverain, et il a un pouvoir, il a une puissance qui nous dépasse. Et sortons nos yeux et sortons notre intelligence de la compréhension, finalement, eh bien de ces choses qui nous sont compréhensibles, les choses de la terre. Mais comment Dieu a-t-il tiré le ciel, le firmament? Comment a-t-il fait les étoiles? Aujourd'hui, quand nous contemplons avec là les formidables commentaires sur le cosmos et tout ça, on se dit, mais qu'est-ce que nous sommes? Encore moins qu'un grain de sénévé, hein. Encore moins qu'une fourmi. Alors bientôt, on va aller sur Mars. On va peut-être découvrir des choses là-bas. Hein. Parce qu'il paraît que c'est la prochaine planète où on va être heureux. Ce ne sera pas les contingences de la Terre. Il y a quelqu'un qui l'a dit, là, quelqu'un qui est en train de préparer des pétards pour monter jusqu'en haut, là-bas. Hein. Puis quand on sera là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va y rester, parce qu'on ne pourra plus redescendre. Ça va changer les choses. Hein. Donc, je dis bien l'extravagance, et moi je marque le mot l'extravagance de la puissance de Dieu en action. Quand je contemple les œuvres de ta grâce, les œuvres de ton amour, les œuvres du ciel, l'infiniment grand et l'infini petit, je ne peux que me courber devant toi et te dire, oh Dieu, tu es mon Dieu, tu es grand, comme on le chante quelquefois. Qu'est-ce qu'un minuscule petit grain de moutarde? Et nous passons alors là de la petitesse au miraculeux imposant d'un arbre tutélaire qui a poussé et qui se met à marcher. Eh ouais. Alors quand on voit un arbre qui commence à plier, il vaut mieux pas rester en dessous. Hein. Parce que là, vous finissez déjà dans le bois qui peut vous emmener. Et là où vous y resterez, de toute façon, quoi qu'il en soit. Une montagne qui se déplace, je dis bien qu'il s'agit d'une hyperbole, soit un impossible déplacement géographique. Vous vous rendez compte? Je vais faire un petit tour là dans le massif central, c'est plus rond, il y a moins de piquets. Et puis je dis, par exemple, au Puy de Dôme, eh ben, écoute, tu vas jusqu'à La Rochelle, hein. Mais ça va faire des traces, hein. Il va y avoir des cils, il va y avoir des bouleversements. Alors, ça semble complètement illogique, on dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, bien sûr. Vous savez que nous sommes dans un temps où on aime bien l'extraordinaire, et surtout avec les médias, les gens sont friands d'extraordinaire. Quitte à le chercher, cet extraordinaire, dans la magie, dans le culte. Parce que là, ça marche en ce moment. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Ah, les gens sont médusés, ils sont avides de voir des choses extraordinaires. Ben, vous lisez la Bible et vous allez en avoir. Hein. Mais ce n'est pas tout à fait le même... Ce n'est pas tout à fait la même leçon. C'est autre chose. Ce n'est pas pour glorifier Dieu, hein, tout ce qui se passe sur la terre avec l'extraordinaire, les magiciens et tous ces personnages. Non, c'est autre chose. C'est pour reconnaître autre chose. Eh oui, je peux vous dire que... Qu'est-ce qu'il y a comme mont là, comme montagne? Il n'y en a pas ici à Arpedon. Hein. Oui. Qu'est-ce qui est le plus haut là, dans la région? Comment?
Ouais, c'est chez Antoine, qui est chez vous.
Ah, c'est toi qui es plus haut.
Je suis en altitude, moi.
Écoute, je peux te donner un petit coup de fil demain matin. Cet après-midi, tu vas t'employer à essayer de dire à ta montagne de se déplacer.
Je peux essayer. Ouais.
Ah, tu peux essayer. Et tu la déplaces, eh bien, chez Raphaël. On va voir ce que ça va donner. Raphaël, t'as intérêt de sortir les meubles. Et là, on va parler de Redon. Je peux vous le dire. Alors, voilà, c'est complètement... Ah, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'extravagance. Dieu est un Dieu extravagant, mais il le fait pour le bien. Il ne va pas bouger les choses, hein, pour, quelque part, faire une modification géographique. Et vous avez vu un végétal qui court vers la mer, c'est pareil, hein? Oh là là! Qui veut prendre un bain de mer, tout simplement. Hein? Mais Jésus, où tu en es rendu pour nous raconter des histoires pareilles? Ah oui. Impossibilité totale des humains. Et puis j'ajouterai, avant d'aller plus loin, ajoutons ce prodige. Vous savez ce que c'est qu'un prodige? Prodigieux. Ah ouais, c'est quelque chose dont le mot est souvent, dans les fêtes, eh bien, manifesté dans la Bible. Vous souvenez du figuier qui a desséché en une nuit? Oui, on a parlé de la montagne, on a parlé de là, eh bien, de ce végétal qui est le sycomore, on a parlé également de ce figuier. Et il dessèche immédiatement. Une parole de Jésus, c'est il dessèche. Alors on va le lire. Matthieu 21, 21. On va regarder ça. Matthieu 21, 21. Qu'est-ce qu'il nous est dit à ce propos? Alors que je retrouve le texte. Je vais relire le contexte d'ailleurs. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Donc c'est une nécessité là, hein, quelque chose qui est vital aussi. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, puis il n'y trouva pas, il ne trouva que des feuilles, et il lui dit, écoutez bien ce qu'il va prononcer, parce que c'est la seule condamnation à mort que Jésus prononce. Hein. Remarquez bien hein, dans la Bible. Que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Jésus est dépité parce qu'il avait faim, et il tend la main auprès de cet arbre en disant, voilà. Un autre texte nous dit que ce n'était pas la saison. Mais Jésus devait le savoir, ça aussi. Et c'est surtout pour la démonstration. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, parce qu'ils étaient présents hein, le moment où il a séché, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, pour les deux, hein, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, une prononciation de condamnation, on peut dire ça, hein, de mort. Hein. Mais quand vous diriez à cette montagne, et on revient à ce que nous avons dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Écoutez bien la suite. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors à nous les montagnes, à nous les sycomores, à nous toutes les forêts et à nous tous les figuiers. On est bon, hein? On est bien, on est fort. Ça ne vous fait pas tousser, non? Non. Remarquez, vous n'avez pas besoin de ça, parce qu'on tousse déjà naturellement, en ce moment, en tous les cas. Je prendrai un autre texte dans Jean, chapitre 11, verset 40. Alors, Jean, chapitre 11, verset 40. Nous allons avoir quelque chose, alors là, d'extraordinaire. Ah oui, pour être extraordinaire, c'est extraordinaire. Écoutez bien. Jésus parle à Marthe, qui sont réunis sur la tombe de Lazare, frère de Marthe. Jésus répond à une question de Marthe. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, la souveraineté de Dieu, la divinité de Dieu. » Tout ce qu'il peut y avoir, finalement, eh bien, pour décrire la majesté divine. Ils élevèrent, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et il dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, vous le verrez. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien, ça c'est une chose à retenir. Merci Seigneur, je te demande, mais avant de te demander, je commence à te remercier parce que tu vas le faire. » Vous ne l'employez pas cette formule? On l'oublie quelquefois. Hein, oui, Seigneur, je te remercie pour le passé, je te remercie pour les examens d'hier. Mais Seigneur, je vais prier, nous allons prier, et je te remercie comme si je l'avais déjà reçu. Et après, et vous êtes dans le calme, vous êtes dans la tranquillité, vous attendez que ça arrive. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez-vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Quand? Comment? De quelle manière? Même si je ne réponds pas à la question pourquoi, et puis toutes les interrogations que cela peut supposer, en tous les cas, vous le recevrez. Alors, on continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Est-ce que vous le dites dans vos prières? Seigneur, tu m'exauces toujours. Et vous savez, ça évacue toutes nos craintes et toutes nos appréhensions et toutes nos incrédulités. Je sais que tu m'as déjà exaucé, que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Eh oui, on n'est pas tout seul. Qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui es mon père. Moi, je suis ton fils. Moi, je suis un homme, une femme, un chrétien, un croyant qui a mis toute ma foi en toi. Sans douter. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé de linge. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? C'est pas un prodige, hein? Eh bien, je vais vous dire le nom. C'est l'inouï dans l'inouï. Un mort qui ressuscite. Et il est bien mort, hein, le pauvre. C'est une conception. C'est incommensurable. On ne peut pas donner de mesure dans tout ça. Tellement. C'est incommensurable à notre intelligence qui est limitée. C'est ce que nous pourrions appeler l'indicible résurrection de Lazare. Et Jésus dit à Marthe, je le reprends, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, première, tu verras la gloire de Dieu, deuxième. » Alors Jésus cria, « Lazare, ça !» et le mort est sorti. Waouh ! Alors, Marthe a dû être toute éblouie, Marie aussi, et puis les gens qui étaient autour. Alors là, ça a dû certainement les souffler. Il y en a même qui ne croyaient pas que Lazare était mort. Et vous savez ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu tuer aussitôt Lazare pour leur envoyer dans la mort. Excusez-moi, hein, si vous traduisez mon sifflet. Eh oui, mais c'est fou une chose pareille. C'est fou. Alors, quand tout à l'heure je vous ai parlé d'extravagance, quand je vous ai parlé tout simplement d'hyper et de super puissance, de prodiges dans des actes, dans des œuvres, dans des faits, il y a d'autres qualifications pour expliquer finalement ce mystère. C'est la fascination. C'est pas la peur, c'est pas la crainte, mais c'est la fascination, c'est l'éblouissement, c'est la sidération, c'est le ravissement, c'est la magnificence. Et voilà les œuvres extravagantes de Dieu. Et Dieu, non pas veut nous faire fuir, comme les disciples sur le lac, ils ont eu peur quand ils ont vu Jésus arriver. Ils ont eu peur du vent, ils ont eu peur des vagues, ils ont eu peur de tout ça. Mais nous voyons que toutes les choses sont remises à l'envers pour montrer la grandeur et la magnificence de Dieu en nous sidérant et, quelque part, eh bien, en éblouissement. Parce que Dieu est capable de nous éblouir. Ouais. Il y a des beaux cantiques qui sont, finalement, qui ont été écrits sur l'éblouissement des croyants. Ébloui, tu m'éblouis, Seigneur. Et nous avons une petite part, comme un grain de sénévé, où quelquefois Dieu nous a éblouis. Il ne nous a pas seulement étonnés, parce que l'étonnement, c'est plus du côté de l'incrédulité, mais de pouvoir en arriver au but, c'est-à-dire l'adoration. L'adoration de Dieu. Extravagance de Dieu, qui a fait dire en son temps de Jésus, des contemporains de Jésus ont dit, écoutez bien, moi, c'est un verset qui est magnifique. Il fait tout à merveille. Oui, il y a des gens qui lisent la Bible ici, quand même. Bravo. Il fait tout à merveille. C'est écrit, hein, je crois, dans l'évangile de Luc, de Marc. Le mot extravagance désigne ce qui semble peut-être abusif. Oh oui, il est extravagant, mais on ne peut pas le suivre, hein, ça c'est sûr. Ce qui est démesuré. Au-delà et hors du commun. Bah, évidemment, c'est ça le miracle, le principe du miracle. En dehors de l'habituel, parce que nous sommes habitués à notre routine, qui sort des normes. C'est tout cela. Alors je voudrais ouvrir une nouvelle voie pour conclure. Nous allons considérer maintenant quelques types autour de trois fruits de l'esprit et particulièrement mettre en avant trois dons de l'esprit. Vous connaissez l'évangile, enfin plutôt l'épître de Paul, 1 Corinthiens chapitre 12, 13, 14. Il est question des dons spirituels. Parce que le don, parce qu'on peut dire que c'est des dons, on parle de dons là maintenant, hein. Trois dons de l'esprit dont le but est une démonstration de puissance dynamique. C'est-à-dire il y a des choses qui bougent, des choses qui se font, des choses qui se réalisent. Puissance dynamique de Dieu sur l'homme, pour l'homme, dans la nature et sur la matière. C'est ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Dons de l'esprit qui nous sont donnés et qui sont enseignés par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Et c'est intéressant de prendre et de le dire, de le redire, surtout dans nos églises évangéliques, charismatiques. Citons la parole de foi, on va le voir. Nous pouvons parler également de la parole ou du don des guérisons. Je dis bien au pluriel, des guérisons. Il n'y a pas qu'une guérison. Ça veut dire qu'il y a plusieurs traitements qui peuvent être véritablement soumis à différentes pathologies. Le don des miracles. C'est ce que nous avons dit jusqu'ici, le don des miracles. Ces capacités dont nous sommes impossibles, parce que finalement, on peut les appeler, nous, à vue humaine, avec notre intelligence, avec notre connaissance, avec notre intellect, on pourrait les appeler de l'invraisemblance. Et pourtant, la Bible est apparemment invraisemblante. De l'extravagance divine. Tout ce qui est impossible devient possible. Et nous en avons fait l'expérience à des niveaux différents. On n'a pas fait marcher des montagnes, on n'a pas fait courir un sycomore, on n'a pas finalement, certainement expérimenté tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, mais on l'a vu dans notre vie. Et on l'a peut-être pas su toujours le reconnaître à sa juste valeur. Et d'avoir reconnu Dieu dans tout cela. Vous savez, celui qui a été malade, il peut parler de guérison divine. Moi, je dis toujours, le principe, c'est que les hommes soignent, entendez par là le service médical, etc. Les hommes soignent, et c'est Dieu qui guérit.
Amen.
Bon, vous avez compris ce que ça veut dire, On y est passé par là, On peut parler de miracles également, parce que moi, j'ai vécu, c'est vrai. Eh bien, des choses... S'il n'y avait pas eu l'intervention de Dieu, je pense que je serais certainement quelqu'un d'autre, ou peut-être je ne serais plus là, c'est possible. Et il y a naturellement, en effet, dans ces types qui nous sont présentés, la foi, la parole, la guérison et le don des miracles, naturellement. La foi, c'est quelque chose, on va en parler d'ici quelques instants. Le don de foi. Écoutez bien, c'est une formule que je suis en train de donner parce que c'est celle qui se retrouve dans toutes les études théologiques. Le don de foi est la capacité surnaturelle, pas naturelle, attention. Si je prends la confiance que j'ai dans les hommes, là c'est naturel. Mais c'est tout simplement la capacité surnaturelle de croire sans douter. Ah, parce qu'on peut croire, mais à un moment donné on est complètement, on décroche. Parce qu'on doute. Et celui qui doute, alors à ce moment-là, tombe dans le versant de l'incrédulité et il ne recevra rien. C'est ce que nous dit Jacques, finalement, dans le chapitre 1er de son épître. Alors, c'est de croire sans douter qu'une chose arrive ou qu'elle va arriver. Attendez là, elle va arriver dans des circonstances absolument contraires. Et je vous donnerai un exemple que vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Daniel dans la fosse aux lions. Est-ce que vous avez déjà été au zoo ou dans un zoo? Demandez donc au directeur de vous renfermer avec quelques lions. Ah, ils claquent des dents, les dents. Et surtout s'ils ont faim. Eh bien, ce qui s'est passé pour Daniel, c'est qu'il ne s'est rien passé. Les lions ne lui ont pas sauté dessus. Ils ne l'ont pas déchiré. Ils ne l'ont pas mangé. Daniel est resté dans une paix profonde. Il était là. À côté des lions, et les lions ne l'ont pas touché. Ça s'appelle le don de la foi, ça. Le don miraculeux de la foi. Et Dieu, après, naturellement, c'est comme ces trois camarades qui ont été jetés dans la fournaise, et ils nous ont dit qu'il n'y avait aucune trace de feu sur eux. La foi, c'est la tranquillité. C'est de rester calme dans un monde de tourments, dans un monde de danger imminent. C'est ça, la foi. Je reste calme. Je suis tranquille. combien j'ai assisté de personnes, des frères, des sœurs, qui allaient se faire opérer, moi-même en particulier, parce que c'est quand même pas très drôle hein, de se faire opérer, et de pouvoir vivre les instants d'avant, de dire « Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux, mais je suis tranquille en mon âme et dans mes pensées. » C'est ça la foi, sans douter, rester tranquille. La foi est égale à la paix intérieure, à la paix de l'âme. Don des guérisons, je l'ai dit tout à l'heure au pluriel. Alors, le principe, c'est une communication du pouvoir du Saint-Esprit. Pouvoir du Saint-Esprit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Si vous ne l'êtes pas, croyez que vous allez l'être, si vous le demandez, avec foi. Il va vous le donner, le Seigneur, puisque c'est dans le programme. Vous n'avez pas vu sur le... C'est marqué? C'est marqué dans votre Bible? Mais oui! Jésus souffla sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, le don des guérisons, donc, c'est cela, afin de guérir, de délivrer, petite nuance entre la guérison et la délivrance, des malades, qui va leur rendre une santé totale. Ce n'est pas une demi-santé, ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas un ersasme de « Ouh, je me suis senti mieux !» Puis deux jours après, je commence à avoir « J'ai encore mal aux dents !» Non, une totale santé. C'est un don qui n'est non permanent, et c'est là où l'Église, où les Églises font la faute, en pensant que quelqu'un qui prétend avoir finalement le don de guérison, il l'aura du début jusqu'à la fin. C'est faux. Et on en fait souvent, finalement, eh bien, des gens qui courent après l'homme, mais qui ne pensent pas à Dieu dans cette affaire. Dieu donne comme il veut, quand il veut et à qui il veut. N'allez pas vous tromper, parce que dans nos églises, c'est souvent ça. On dit, oh voilà, il a un don, il est évangéliste, il a un don, etc. Ben, je peux vous dire, pour avoir côtoyé pendant au moins une vingtaine, 25 ans, quelqu'un qui avait le don, mais il ne l'avait pas toujours, hein, je peux vous dire. Hein. Il y a des fois ça marchait, quelques fois ça ne marchait pas. Alors vous me direz, mais c'est plutôt le malade qui n'avait pas la foi. Non, non. Dieu fait comme il veut, quand il veut, et ce qu'il veut. Donc c'est un don non permanent. N'allez pas courir après un bonhomme. Un bonhomme, c'est un pasteur. Hein. Moi, je suis un bonhomme. Je ne suis pas un mauvais, je suis un bon. Alors, n'allez pas courir après les gens, parce qu'on en fait des idoles après, hein. Ouais, c'est ça. Alors voilà, les gens viennent en fond. Mais qu'est-ce qui se passe à Lourdes? Qu'est-ce qui se passe dans les religions chrétiennes qui sont complètement à côté? Bah parce que on invente toutes sortes de choses. Non. Respect prioritaire à Dieu et avant tout. Et l'homme, c'est un agent, c'est tout. Je dis pas un instrument, parce que comme c'est une personne, faut dire un agent, pas un instrument, hein, qui distribue. Non. Faisons attention à ça. Alors, quel exemple du don des guérisons? Eh bien, c'est Philippe l'évangéliste, vous savez, dans Actes chapitre 8, qui va à Samarie, et là, il est confronté avec celui que je vous parle, là. Vous savez, comment il s'appelait, Ananias? Non, comment il s'appelle c'est ce personnage-là qui guérissait tous les gens, les gens finissaient, parce qu'il faisait des miracles un petit peu clignotants. Les gens disaient, ben, c'est la puissance celle qui vient de Dieu, ce qu'on appelle la grande.
C'est Simon, non?
Comment il s'appelle?
Simon.
Simon, oh, mais je connais celui-là. Mais oui, heureusement que vous êtes là pour m'aider, hein. Ah ouais. Simon l'évangéliste, vous avez Paul à Malte, qui va faire une expérience extraordinaire pendant 3 semaines, 1 mois, il va être sur la mer, là, ballotté de droite et de gauche. Ils vont arriver miraculeusement dans l'île de Malte. Et là, il va rencontrer un homme qui s'appelle le père de Publius, qui est un fonctionnaire ou un notable de l'île, qui a la dysenterie. Il va le guérir. Tous les gens de l'île de Malte qui sont malades, ils vont venir. Ils vont être guéris. Mais c'est pas Paul qui guérit. C'est Dieu qui guérit à travers le ministère de Paul. Et quand il se fait mordre par une vipère, il ne lui arrive rien. C'est ça le don des guérisons. Ou la préservation, finalement, de la mort. On peut le dire, désolé. Le don des miracles, je vais finir. Qu'est-ce que c'est que le don des miracles? C'est une opération miraculeuse, surnaturelle, qui est contraire aux lois de la nature. Où Dieu va modifier les lois qu'il a instaurées, qui sont fixes, mais il va les modifier pour une cause ou pour une autre, qui s'exercent sur les choses physiques et matérielles. C'est ce que nous voyons avec les poissons qui sont changés en pain. Pas les poissons, mais... Comment c'est ? La multiplication. C'est pas une multiplication, mais les pains et les poissons vont se multiplier. Oh, pas beaucoup. C'est comme la montagne qui court vers la mer. Hein. 5 000 pour nourrir 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. C'est pas un miracle, ça ? Hein. Au lieu d'aller faire vos courses dans les supermarchés toutes les semaines, bah vous demandez au Seigneur qu'il ouvre finalement votre réfrigérateur et qu'il le remplisse. Tranquille. L'eau changée en vin. Ah oui, c'est pas mauvais le vin. Hein. Un jour de mariage, c'est une panique. Parce que tout le monde a soif et tout le monde, c'est un jour de fête. Et là, il manque. Et là, il suffit que Jésus donne l'ordre. Et il va pas bouger beaucoup, Jésus. Il va donner l'ordre d'aller prendre de l'eau. Et quand elle arrive sur la table, c'est du vin. Et pas de la piquette. Le meilleur des meilleurs. Il y a Jésus, miracle. Qui marche sur les eaux. Là, et les disciples, même s'ils ont les cheveux mouillés avec les vagues qui leur tombent dessus, mais là, ils vont avoir les cheveux qui sont dressés sur la tête. Ils vont voir Jésus. Et vous savez, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont penser que c'est un fantôme. On est. Et le miracle cosmique de Bethléem avec l'étoile, c'est pas Dieu qui fait les choses comme ça. Parce que là, il fallait bien viser juste, hein. Il arrive de l'Irak ou de l'Iran, je ne sais plus, ou de pays de l'Orient, et ça va tomber sur le toit, non pas d'une maison, mais sur le toit d'une crèche où il y a des animaux, et là se trouve Jésus, le Messie. Hé, hey, ça c'est formidable. Conclusion, ça va, vous êtes rassurés, ça va, hein? Vous somnolez pas, hein? Parce que moi je travaille. Hein? Conclusion. Il y a dans toutes les... la puissance de Dieu, on pourrait le dire de cette manière, dans ces choses qui nous dépassent, il y a une utilité évidente quand Dieu fait ces choses. D'abord à travers la parole pour que nous puissions développer notre foi, et puis montrer quelle est la personnalité de Dieu, parce que Dieu est avant tout une personnalité. Alors, c'est tout simplement rendre, écoutez bien, rendre l'invisible visible. Ce que nous ne voyons pas habituellement parce que nous ne sommes pas adaptés pour le voir, mais à un moment donné, Dieu ouvre les volets, il ouvre finalement les écluses des cieux, et là nous voyons que il y a des choses extraordinaires. Qu'est-ce que ça va être dans le ciel ? Vous n'êtes pas pressé d'y aller ? Vous ne répondez pas trop vite. Hein ? Réfléchissez. Mais de l'autre côté, on n'a pas à se faire de soucis, hein, de toute manière. Rendre l'invisible visible et prouver la réalité du Dieu qui est vivant. Et c'est ça le miracle, c'est ça les dons spirituels, les dons de l'esprit, qu'il est vivant, qu'il est créateur, qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain, nous l'avons dit tout à l'heure, et qui aime sa créature pour la sauver, pas pour l'éblouir, même s'il y a de l'éblouissement, mais pour la sauver, sauver de sa misère, sauver de la mort éternelle, de la seconde mort on pourrait dire, pour la secourir, pour lui parler, pour lui attester, par des signes sidérants que sa parole est la vérité qui est digne d'être crue. Même quand on parle de montagnes qui se carapatent, même de comment je veux dire, excusez-moi l'expression, mais même le sycomore ou le figuier, tout ça, c'est pour nous dire qu'il est digne, que sa parole qu'il donne, elle est digne d'être crue complètement et totalement. Et je termine sur un formidable passage, moi que j'aime beaucoup, j'ai quelquefois prêché là-dessus, c'est dans Actes chapitre 10, où il est dit ceci, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Ouais, Jésus est venu, il est venu pendant 3 ans, il est venu non pas éblouir, mais il est venu montrer que Dieu est Dieu, qu'il est tout-puissant et que rien n'est impossible à Dieu et que nous sommes appelés à lui faire complètement confiance. Dans notre vie, nous avons des montagnes à surmonter, n'est-ce pas, les uns et les autres. La maladie, les problèmes peut-être que nous pouvons avoir familialement, conjugalement, et puis peut-être les problèmes économiques, des problèmes de toutes sortes, des problèmes, je ne vais pas y passer l'après-midi parce qu'il n'y a que ça. Bon, il y a quelquefois des petites lumières qui s'allument pour nous dire, mais garde l'espoir. Hein. Mais c'est ça, pour nous dire que Jésus est en Dieu et Dieu est en Jésus, et qu'il est venu vers les hommes parce que sa venue, la motivation de sa venue, c'est parce qu'il nous aime. Et nous, nous voulons l'aimer en retour. Et il a fait déjà tant de choses. Moi, quand je regarde ma petite vie, hein, toute modeste, et je me dis, mais quelquefois, on se dit, mais Seigneur, tu avais des grandes choses pour nous. Hein. Regardons à ces grandes choses qu'il a faites, et non pas toujours à nous plaindre en disant, mais tu fais rien, Seigneur. Tu fais rien. Mais si le Seigneur fait, chaque minute, chaque jour, eh bien, il y a un souffle qui nous vient du Seigneur. Et si nous voulons le reconnaître, eh bien, nous vivrons heureux. Alors, aujourd'hui, Jésus, guérissant, parce qu'il est toujours vivant, les expériences surnaturelles interpellent à la fois, elles interpellent les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore parmi les enfants de Dieu, ils les interpellent à la repentance. On a eu beaucoup de frères et de sœurs qui sont frères et sœurs aujourd'hui parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés et ils ont été bouleversés par l'expérience. Ça, c'est sûr. La repentance, la conversion et la glorification de Dieu en finale. Quand on sera de l'autre côté, ça sera une glorification permanente. Ici, il faut essayer de voir à travers les brouillards, les brumes, à travers tous les mouvements qu'il peut y avoir d'une manière ou d'une autre et discerner combien Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. On le chante. Hein. Alors, une dernière phrase. La Bible nous dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu du temps de Jésus, dans les choses formidables. Et on dira même, comme je l'ai déjà cité, les gens de ce temps qui ont été guéris, qui ont été touchés, ils diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est un homme qui était paralysé, qui a été guéri, qui disait ça. Et la foule qui a été témoin de tout cela, nous n'avons rien vu de pareil. Et bien justement, c'est précisément parce que ce n'est pas pareil, et que là, la lumière de Dieu nous s'éclaire de temps à autre. Mais alors, n'ayons pas peur à lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as parlé d'une montagne qui marche. Tu nous as en effet parlé d'un sycomore qui s'enfuit. Tu nous as parlé d'une petite graine qui est presque rien, insignifiant, et qui peut devenir un arbre tutélaire. Tu nous as parlé en effet, et bien là, Seigneur, d'un figuier qui va se dessécher à l'instant. Et nous voulons te rendre grâce parce que toi, tu es le Dieu qui fait traverser la mer Rouge. Tu es le Dieu qui nous fait traverser ce fleuve qu'on appelle le fleuve de mort, le Jourdain. Nous te remercions et nous te bénissons parce que tu es capable de changer l'eau en vin. Merci Seigneur parce que tu es capable de multiplier les pains lorsque, en effet, eh bien, la famine est là. Nous te louons et nous te remercions. Je te prie pour chaque frère, chaque sœur, ce matin qui a entendu ta parole. Alors visite-les, bénis-les, accorde-leur ton secours et ton aide, et donne-leur de regarder à Jésus, à travers l'opacité, Seigneur, de cette vie, de cette existence, où vraiment, Père éternel, nous ne voyons pas grand-chose. Mais à un moment ou à un autre, nous avons besoin de faire de belles expériences. Et nous voulons te dire ce matin que nous sommes prêts à faire de nouvelles expériences avec toi. Et nous te remercions et nous te bénissons, pour que non seulement, eh bien, tu nous fasses ce bien ultime, mais que nous puissions le dire par le témoignage aux autres, pour qu'ils puissent véritablement te découvrir à leur tour. Merci Jésus, merci parce que, en effet, nous croyons que le surnaturel, même le plus excentrique, eh bien, en effet, incompréhensible, a un but et véritablement, Seigneur, a un sens pour la vie des hommes. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.
Amen.